J'ai mis bas la veste. Hein. Quand parle-t-on de mettre bas la veste dans le monde? C'est se mettre au travail. Hein? C'est vrai, hein? Qu'on ne soit plus encombré de vêtements superflus pour travailler et œuvrer comme le Seigneur le veut. Et ce matin, à travers ce que j'ai entendu aussi des différentes prières, j'ai vu combien il est important pour chacun de nous d'honorer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée, de vivre pleinement et richement de lui. Mais il attend de nous aussi quelque chose. Ce n'est pas tout de l'être là et puis de rien faire. Mais Dieu nous demande de travailler. Et travailler à des choses importantes. On va prendre dans l'Épître aux Philippiens, qui est l'Épître dit de la joie, hein, de la joie dans le service, de la joie de le servir, dans la joie de vivre de lui, de dépendre de lui, de le reconnaître dans tout ce qui nous entoure, de le voir agir avec puissance et autorité et avec bonté et douceur. On va lire dans le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, dit Paul, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier, dit Paul, au jour du Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Oui, c'est l'épître de la joie, en toutes circonstances. Mais ce que dit Paul dans le premier verset de ce chapitre, il parle de ce que nous devons être, etc., etc., d'être en somme modèle dans le monde et de ressembler à Jésus-Christ comme modèle le plus important. Ici, il commence, dans ce verset 12, à parler de travailler à son salut. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est sauvés. Pourquoi travailler pour le salut? C'est une aberration. Le salut est gratuit. Il nous a été donné. Et il faut encore travailler. Reposons-nous. C'est le jour du repos aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dans la semaine, travaillons les uns les autres d'une certaine manière dans ce monde d'aujourd'hui dont on parle. Dans ce passage où c'est un monde qui est corrompu et pervers, et dans lequel nous devons être une lumière, un flambeau. Flambeau, c'est quelque chose de visible, hein, ce n'est pas une petite bougie. Je me rappelle qu'il y a de nombreuses années, Reinhard Bonnke était venu à une pastorale qui était à Mulhouse, et puis il avait parlé de la puissance du Saint-Esprit qui était sur nos vies. Et dans les actes, on parle qu'il y avait comme des flammes de feu qui était sur la tête des apôtres et des présents dans la chambre haute. Il disait, vous avez tous une petite lumière au-dessus de votre tête. N'oubliez pas que vous avez une lumière sur votre tête. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous êtes visible. Totalement visible. Le monde doit vous voir. Vous ne devez pas vous cacher, hein, comme cette personne, je l'ai dû le dire ici déjà, mais je le redis encore, qui allait à une convention de travail avec ses collègues. Et sa femme, il prépare sa valise, elle était bien gentille, hein, sa femme. C'est comme ça, vous faites, mesdames, vous préparez les valises de vos maris quand ils s'en vont quelque part? Ou bien vous le laissez se débrouiller? Non. Mais quand même, des fois, on n'amène que l'essentiel. Et elle lui demande, chérie, tu as bien pris ta Bible ? Oui, ma chérie, je l'ai bien prise. Elle est dans la valise. Elle est dans la valise. Puis il revient de sa convention, il revient, alors dit, sa femme lui pose la question, mais ça s'est bien passé ? Oh, d'une façon excellente. Personne n'a remarqué que j'étais chrétien. La Bible est restée dans la valise. C'était un accessoire inutile. Ou est-ce que c'était un objet important? Nous avons à veiller les uns et les autres sur notre comportement et notre attitude dans le monde d'aujourd'hui. Travailler à notre salut. Montrer finalement que nous appartenons à quelqu'un qui est exceptionnel aux yeux du monde. C'est un grand homme, quelqu'un qui a annoncé des choses extraordinaires, qui a donné un exemple extraordinaire. Mais c'était un homme, comme disait tout à l'heure Daniel. Mais c'est plus qu'un homme, c'est Dieu, qui est venu sur la terre et qui a été exemplaire tout au long de sa vie, de ses 33 années de vie, supposées, puisqu'on ne sait pas exactement toutes les dates. Mais il a été, dès son enfance, il a été un exemple. Lorsqu'il a quitté ses parents, lorsqu'il est allé au temple à 12 ans, il était à la fête à Jérusalem, et puis brusquement les parents se rendent compte que leur fiston n'est plus là. Il avait 12 ans, il était quand même, malgré qu'à 12 ans, peut-être à cette époque, il était plus mature que 12 ans aujourd'hui. Et ce gamin, où était-il dans cette ville? Bon, ce n'est pas la ville de Paris, hein. Jérusalem n'était pas une grande bourgade à cette époque, comme aujourd'hui. Mais c'était quand même important. Il y avait des milliers de personnes. Ils l'ont trouvé au temple. Et quand ils ont fait la remarque, « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu nous as fait la... On a eu peur de te perdre. » Il dit, « Mais pourquoi vous êtes inquiétés ? Je m'occupe des affaires de mon père. » 12 ans. Déjà, dans son jeune âge, il avait le désir de servir et d'honorer Dieu. Et je pense ici à nos jeunes qui ont eu à cœur de témoigner. Et parfois, lorsque l'adolescence vient, c'est le silence total. J'en connais quelques-uns ici. Je ne vais pas les citer parce qu'ils auraient honte. Mais j'ai entendu il y a des années des prières, des très belles prières à des enfants. Laissez les enfants parler, prier, exprimer s'ils ont quelque chose sur leur cœur. Et puis, à bout d'un certain temps, c'est fini. Ou une belle lecture. J'encourage à reprendre le chemin. À reprendre ce chemin de salut dans lequel vous, les enfants, vous pouvez entrer aujourd'hui. Et non pas dans un avenir incertain. Moi, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 33 ans. Oui. Vous savez, un certain nombre d'années quand même depuis que j'ai vécu avec lui. Gloire à Dieu parce qu'il m'a gardé la vie. Mais si on peut se prendre tout jeune et vivre pleinement de sa foi, de ne pas être influencé par ceux du dehors, mais d'influencer ceux du dehors. De montrer et de manifester pleinement, richement, la puissance de Dieu dans vos vies. Il y a 4 semaines, lorsqu'on a parlé de la malédiction et de la bénédiction, j'ai parlé de « soyez la tête et non la queue ». Ça ne veut pas dire que vous êtes le premier partout, mais que vous êtes remarquable. Remarquez, même dans l'humilité, même dans la douceur, même dans la simplicité, même dans peut-être un manque certain de connaissances et d'intelligence. Qu'est-ce que ça peut faire? Quand Pierre et Jean ont parlé au temple, et que le texte que tout à l'heure Daniel a lu, il y a un autre passage, il dit, mais ces Galiléens, ce ne sont pas des gens instruits, ils ne connaissent rien. Mais comment peut-il parler ainsi? Là, ils étaient la tête. Et les pharisiens étaient la queue. Parce qu'ils avaient la connaissance, mais ils ne savaient pas l'utiliser. Ils avaient toute l'instruction voulue, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit de bon. Simplement que des actes religieux. Mais nous, en tant que chrétiens, quel que soit notre niveau social, quel que soit notre niveau scolaire, quel que soit notre niveau à tous égards, nous sommes des témoins. Et nous devons manifester puissamment la présence de Christ en nous. Pas de complexe. Quand Serge, c'était juste la semaine avant que j'ai pu apporter là, sur la malédiction, il avait parlé de tout ce qui était en nous comme chose qu'on traînait, comme gamelle. Vous vous rappelez les cartons qui étaient là? Avec tous ces cartons qui étaient là et qui tiraient, il fallait en couper des liens. Hein. Mais c'est notre capacité à nous, c'est ça le travail. D'être libéré de tous les fardeaux et de tous les, comment pourrait-on dire, des liens matériels, moraux, psychiques, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Abandonnons ces choses. Reconnaissons-les. Et si nous les reconnaissons, ces liens, nous pouvons les abandonner. Mais si nous les chérissons, attention, je dis attention à votre salut. Vous direz, est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on peut le perdre? Ah oui. Moi, j'ai vu des gens qui se sont engagés avec Dieu, avec force et puissance pendant des années et qui, d'un seul coup, ont tout lâché, ont tout renié. Quel est leur avenir? Il y a des textes, il n'y en a pas, là, dans l'épître de Pierre, une des épîtres de Pierre. Quelle sera leur situation pour la vie éternelle? Nous avons persévéré et à continuer. Parce qu'il est écrit aussi dans les psaumes, quand le juste tombe, le Seigneur le relève. Et s'il tombe plusieurs fois, il le relève plusieurs fois. Il est toujours avec lui, il est toujours là. Il veille sur nous, il nous donne les forces dont nous avons besoin. Et ce qui est important, c'est que nous soyons semblables à Christ. Non pas dans un orgueil démesuré, mais dans une humilité certaine. Reconnaître qu'il travaille en nous, que sa présence est en nous, et que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme Paul dit aux Romains, aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous appartenez plus à vous-même? On veut encore être soi-même tout en ayant toutes les grâces possibles et tous les dons possibles en nous. Mais ce n'est plus nous qui travaillons, c'est Christ qui travaille en nous, à travers nous. Ce n'est pas notre œuvre à nous, ce n'est pas notre gloire. Une anecdote, ça fait, il y avait un grand prédicateur qui avait des résultats extraordinaires quand il y avait des conventions, c'était un évangéliste de renom. Et quand les foules étaient là et qu'ils parlaient, les gens se convertissaient. Oh là, quelle gloire! Et puis, il y avait une petite dame, une vieille dame dans l'église, qui était là, dans un coin de l'église. Ce n'était pas la première place. Il va falloir que je change de place, moi. Que finalement, elle était à une place, dans un coin, et elle priait. Priait pour cet homme, pour qu'il puisse annoncer avec puissance le salut à des âmes perdues. Puis ils viennent à mourir, et puis ils arrivent au ciel. Et puis voilà qu'un ange arrive, puis avec des couronnes. Il y avait une petite couronne, puis il y avait une grande couronne. Oh là, le prédicateur, à quoi a-t-il pensé? À la grande, bien sûr, hein. Mais il voit l'ange qui prend la petite et qui lui la met sur la tête. Il dit, mais pourquoi? L'ange lui dit, si cette femme n'avait pas prié pour toi, d'une façon constante, tu n'aurais pas eu le succès, entre guillemets, que tu as eu. Elle a prié pour toi. Dieu l'a exaucé et a fait que tu sois celui qui devait être le témoin et le proclamateur de la vérité tel que tu étais. Et c'est la vieille dame qui a vu la couronne. Attention, hein. Nous avons à veiller les uns sur les autres, quel que soit notre niveau. On aurait tendance à cléricaliser l'Église. Avoir le clergé et le peuple. Je me rappelle que dans des conventions au début que j'étais dans le ministère, dans les églises, certaines églises, il y avait tout un rang de chaises sur l'estrade. Et puis, il y avait le prédicateur qui était là, mais il y avait tous les autres derrière. Hein. Attention. C'était les responsables qui étaient là et visibles de tous. Heureusement que les choses ont changé. On s'est rendu compte, ils ont rendu compte que ce n'était pas une position louable et admissible de la part des serviteurs d'être là et de regarder les autres. Et peut-être de surveiller les uns les autres. Attention, qui bavarde ? Oh, il n'y a pas de bavard ce matin ? Seigneur, a fait que ceux qui étaient en position d'être d'autorité ou de capacité à transmettre des choses étaient au même niveau que les autres. Mais respectez quand même. Respectez. Ne l'oublions pas. On doit se respecter les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres, on doit s'exhorter les uns les autres. On ne veut pas que le vieux levain, comme parle ici Paul, soit encore en nous. Et fasse que nous sommes emplis de jalousie, d'amertume, dire « lui, il a plus que moi, c'est pas normal, je voudrais bien qu'il... » Contentons-nous de ce que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse le servir de la manière que lui veut, pas que nous, nous voulons. J'ai appris au long de toutes ces années qu'on a à faire attention à notre manière de parler et d'agir et d'œuvrer. Et que parfois, il est important d'entendre ce que les autres peuvent nous dire pour nous aider. Non pas pour nous condamner. Luttons contre notre vieille nature, frères et sœurs. Notre vieille nature revient, comme disait Luther, vous rappelez peut-être ce que les préparations au baptême avec le petit livret. Il y avait cette phrase qui disait, Luther disait, le vieil homme, j'ai voulu le noyer, mais le bougre, il savait bien nager. Notre nature ressort. Nos faiblesses comme nos qualités, bien sûr, nos défauts, mais parfois des défauts sont peut-être importants, parce qu'ils peuvent être aussi source de victoire dans nos vies. Il y a des gens qui sont trop bavards. C'est un défaut, ça. Hein? Quand Dieu leur permet d'avoir la capacité d'écouter, de pouvoir écouter avant de parler, c'est une tendance, des fois, pour nous, enseignants, prédicateurs, autres, c'est de donner tout de suite la réponse à la première phrase que prononce la personne, alors qu'on doit le laisser parler pour pouvoir l'aider à se libérer. Je l'ai remarqué. Et on disait avec Marie-Thérèse et moi, souvent, on va visiter les gens, on aurait d'aller visiter les gens, on n'a pas le temps. On peut dire qu'un mot, oui, non, peut-être. Mais il y a tellement de choses qui sortent de la bouche de ces personnes, il faut qu'elles vident leur sac pour en être totalement libérés et gagner leur salut. Vivre renouvelé, fortifié, encouragé. C'est un but à atteindre. On aurait tendance aussi d'imiter les autres. Le mimétisme aujourd'hui, je me rappelle que dans une église, c'était assez amusant, je ne devrais pas dire amusant, tous les prédicateurs parlaient de la même manière. Pas mal, hein ? C'était la même façon de parler, les mêmes intonations, presque les mêmes mots répétitifs. Je dis, mais où est la personnalité de chacun ? Où est la personnalité de chaque individu pour exprimer ce qu'il vit ? Est-ce qu'on doit imiter le grand prédicateur ? J'ai noté dans une... Je me suis un peu inspiré avec une étude sur les Philippiens. Alors, j'ai pris une page d'une revue, ça datait d'un petit livre, ça date de 1982, hein, ça fait pas mal d'années. Hein. Il mettait ici, trop de chrétiens obéissent à Dieu seulement à cause d'une influence extérieure. Et pas à cause d'une puissance intérieure. Si trop de chrétiens obéissent à Dieu seulement à cause d'une influence extérieure et pas à cause d'une cause intérieure. Ils sont influencés par peut-être quelqu'un à l'extérieur qui parle bien, qui a une bonne expression, qui manifeste une autorité, qui est costaud, fort, à la fois. Alors moi, je vais être comme lui. Et puis, je vais parler comme lui, je vais faire comme lui. Mais non ! Nous devons faire comme Dieu nous veut que nous fassions. Il met en nous le vouloir et le faire. Ils ne peuvent pas fonder leur vie, ici, sur Paul, les Philippiens. Ils peuvent fonder leur vie que sur ce qu'ils sont, eux. Il est navrant de voir certains ministères dans l'Église perdre leur élan et disparaître à cause d'un changement de conducteur spirituel. Écoutez bien. Il est navrant de voir certains ministères dans l'Église, certaines personnes qui ont reçu quelque chose de Dieu, vraiment pas, perdre leur élan ou disparaître à cause d'un changement de conducteur spirituel. La relève. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est vrai. Mais c'est pareil dans le monde. C'est pareil dans le monde. Donc, faisons pas comme le monde. Faisons comme Dieu veut. Et soyons toujours fidèles à Dieu, malgré tout et contre tout. Même si, finalement, ce n'est pas la même personne. Bon, je vais peut-être me dire, ben, Robert et moi, on n'est pas les mêmes. Ah, ben oui. Ben oui. Sinon, il serait comme moi, il aurait la taille. Et... Bon, il est déjà un peu dégarni, comme moi. Hein, mais... C'est pas moi, et je ne suis pas lui. Et je suis pas aussi un des anciens, Daniel ou d'autres, qui sont là ce matin. Je suis moi, et lui est lui. Et on doit continuer, persévérer malgré tout dans ce que nous avons reçu et ne pas être, comment dirais-je, dans la défaite, dans le désarroi, parce que ce n'est plus la même personne, parce qu'il ne parle plus de la même manière, parce qu'il ne s'exprime pas pareil, parce que son... Je ne veux pas dire son dada, parce qu'on a des fois certains des dadas. Hein. C'est dans une église où on a été, c'était toujours la repentance. Repentez-vous. C'était plutôt un évangéliste qu'un pasteur. Et si les gens étaient toujours dans la confusion et maintenaient leur position comme si c'était toujours des pêcheurs, pas des pécheurs justifiés. Ah ben quelle ambiance. Nous avons à veiller, frères et sœurs, sur notre salut et notre attitude, notre comportement dans le quotidien de notre vie, et aussi particulièrement dans l'Église. Et être attaché à Dieu plus qu'à autre chose. Le servir, lui, là où il nous a placés, de la manière qu'il veut. Et non pas de la manière que nous espérons faire. C'est Dieu qui met en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir, selon sa décision à lui, pas selon la nôtre. Nous avons un pouvoir à recevoir, un pouvoir véritablement de la part de Dieu. Le faire, c'est le pouvoir. Dans le mot faire, je crois, il y a l'aspect de l'énergie qui est donnée. De la puissance que Dieu donne aux gens pour faire quelque chose, pour agir selon leurs capacités. Il y a des gens qui ont des dons manuels extraordinaires. Moi, je ne suis pas trop bricoleur. Et j'aime bien les voir travailler, ces gens-là. Parce que quand je les vois, je dis, je suis émerveillé de la façon dont ils arrivent à faire des choses avec peu de choses. D'autres ont des dons différent. Un don de réflexion, Dieu de transmission. Lorsqu'on est enseignant, on est là pour transmettre ce qu'on a reçu et pour que d'autres puissent aller plus loin que nous. C'est pour ça que je me réjouis de voir dans l'Église qu'il y a aussi ces dons donnés pour le soutien scolaire. Hein, que des personnes, des jeunes et des moins jeunes, j'ai été sollicité. Moi, j'ai dit, je laisse la place aux jeunes. Hein. Moi, je pourrais, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que des gens se lancent, se jettent vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans des choses qui ne sont pas apparemment spirituelles, mais qui sont quand même spirituelles. Pouvoir encourager un enfant, lui donner non pas des paroles disant t'es nul, tu vaux rien, mais que tu peux faire. Je me rappelle avoir vu des classes quand j'étais encore enseignant. C'est des élèves qui étaient rejetés et qu'on considérait pas capables de faire quoi que ce soit de bon au niveau intellectuel et qui étaient dans un lycée professionnel, un centre d'apprentissage au départ. On les mettait là. De plus en plus, porte de garage. Ils sont capables de rien faire par ailleurs, on les met là. Moi, j'ai un élève, je l'ai vu, il était en CAP de magasinier en pièces détachées automobiles. Là, vous voyez, à peu près. Travailler. Un gamin dont les parents étaient du milieu social, disons correct, hein, c'était des employés de magasin, je crois, tous les deux. Et ils avaient deux enfants à l'arrière qui étaient handicapés profonds. Et lui était au centre. Le jeune et le âgé étaient tous les deux des handicapés, mais extrêmement profonds, qui étaient à la maison, qui n'avaient pas voulu hospitaliser. Ils s'en occupaient tous les jours. C'était une ambiance où il y a à peu près deux enfants qui tournaient les catalogues à toute vitesse dans un sens puis dans l'autre, qui finalement regardaient la machine à laver tourner et qui remettaient, appuyaient sur le bouton de l'essoreuse et puis... Et lui, il était là, entre les deux, négligé. Négligé par sa famille. Il était bon à rien. Bon à rien. Et puis il était dans la classe plutôt pénible. Parce que si on ne se fait pas remarquer par ses niveaux scolaires, on peut se faire remarquer par son comportement agressif, par ailleurs. Il faut bien une compensation. Alors, je l'ai reçu à la maison, ça date dans les années 80. Ouais. Et puis, on avait eu ma première épouse, on accueillait des familles de la DAS et on avait des enfants handicapés. Et puis, il a vu ses enfants qui étaient avec nous, il a constaté que on le manifestait de l'amour, mais aux autres aussi. Et que lui, ça l'a touché, il a travaillé. Il est venu à la maison, on était chez les parents, on a témoigné. Et puis ce garçon, ben, il s'est mis à bosser. Hein, il s'est mis à travailler parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas si minable que ça. Qu'on l'avait mis dans une position qui n'était pas la sienne. Mis à travailler. Il a eu son CAP, bien sûr, mais une passerelle s'est ouverte pour aller au lycée. Il est rentré en seconde, il a fait un bac G, il a eu son bac, il est parti ensuite à l'université. Il a eu une licence d'histoire géo, il a passé des concours administratifs de haut niveau, puis aujourd'hui il est député. Il a eu déjà deux mandats. Et la première chose qu'il a faite lorsqu'il a été élu la première fois, bon, il n'est pas venu me voir parce que j'étais déjà à la retraite, mais il est allé visiter ses profs dans le lycée professionnel dans lequel il était entré, avec un CPPN au départ, pour des classes qui étaient un peu bizarres, des gens qui étaient donc nuls, quoi. Et il est allé le remercier. Il a regardé. Et ce garçon... Il a entendu le témoignage de Christ. Mais je veux croire qu'il peut le rencontrer vraiment. Parce que aussi, n'oublions pas qu'il y a Thierry Le Gall, qui est un pasteur évangélique qui fait partie du GNEF et qui est, en somme, le délégué du GNEF au niveau de l'Assemblée nationale. Il y aura peut-être un témoin, un jalon, là, qui le permettra, lui, de se tourner vers Christ. Mais on a vu que, finalement, on n'a pas... Notre voix n'est pas la voix qui nous est destinée d'une façon impeccable par les parents et par nos entourages, mais c'est une destinée qui est donnée par Dieu. Par Dieu. Il y avait une famille, il y avait une jeune fille dans cette famille, et sa mère était infirmière, je crois, et puis le père était aussi dans la fonction, disons, médicale. Et puis les parents espéraient qu'elle fasse ça. Ce que je fais, tu vas le faire. Elle est partie un jour en vacances dans un camp chrétien, et puis elle a réfléchi, mais les parents étaient chrétiens. Et puis quand elle est rentrée, les parents l'ont trouvée toute triste. « Tiens, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» Je crois qu'elle s'appelait Jacqueline. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle a eu du mal à parler. Elle a dit « Tu sais, papa et maman, vous saviez que j'avais peut-être le désir d'être infirmière, hein, travailler, mais maintenant, Dieu m'a montré autre chose. » Ce n'est pas la voix. Il n'a pas dit quelle était sa voix, mais les parents ont dit, « D'accord, ma fille, c'est ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que nous voulons. » Et ça, c'est une chose importante, finalement, dans la direction du salut pour chacun d'entre nous, d'aller dans la voie que Dieu veut, pour le servir et pour l'honorer et pour le glorifier, un pouvoir qu'on a reçu de décision, faire et vouloir. Pour le servir lui et non pas pour se servir nous. Moïse voulait faire. Lorsqu'il a vu qu'un de ses co-religionnaires ou d'Israélites était maltraité par les Égyptiens, il s'en est mêlé. Il a tué celui qui voulait tuer l'autre. Mais après, il a dit, mais qu'est-ce que tu as de plus que nous, toi ? Enfin, dit son compatriote, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu crois que tu es plus que nous et tu vas faire plus que nous? Pharaon l'a su et il a été obligé de s'enfuir. 40 ans après. 40 ans après. C'était l'appel qu'il avait reçu d'être celui qui allait mener le peuple dehors d'Israël, dehors d'Égypte. 40 ans après. Patience. Frères et sœurs, dans la décision aussi spirituelle que Dieu veut pour vous. Si on veut tout de suite, on va rater. Ce ne sera pas le bon moment, la bonne façon de travailler pour son salut. Mais c'est obéir et suivre Dieu et lui donner pleinement et richement sa vie pour qu'il la travaille. David, oint de Dieu par Samuel pour être roi. 18 ans de galères, d'épreuves, de choses terribles, aussi bien avec sa propre famille qu'avec tous ceux qui étaient autour de lui. Il était entouré ensuite des gens les pires du monde, des brigands, tout ce qu'on veut, qui sont venus à lui. Ah, c'était une épique, une drôle d'équipe. Hein. 18 ans. Et Dieu lui a donné le trône. 18 ans. Pour nous, c'est pareil. Hein. Réfléchissons. Je sais que lorsque je me suis converti, j'avais cet appel sur ma vie. Mais j'ai attendu aussi, de 1970 à 1988, 18 ans. Parce que les circonstances de la vie et tout ça empêchaient, étaient opposées à que cette position soit prise à nouveau. 18 ans. Et je bénis Dieu pour cela. Parce que j'aurais pu faire d'énormes erreurs. J'aurais pu aller au-delà de ce que Dieu me demandait. J'ai appris l'humilité aussi à ce niveau-là. Qu'il faut accepter ce que Dieu veut et non pas ce que nous espérons, nous, vouloir tout de suite. Dieu n'est pas un bon génie qui distribue à notre demande. On met une pièce dans le distributeur et on a le paquet qu'on veut. Non ! C'est Dieu qui donne la force et la puissance. Mais c'est lui qui la donne, mais ce n'est pas à nous de l'exiger. Je dis comme tout à l'heure, on ne peut pas faire de mimétisme, on ne peut pas ressembler à tout prix à quelqu'un. Moi, la première fois que, dans une convention de Pentecôte, j'ai rencontré un prédicateur, c'était Ralph Challis. Il a peut-être lu des livres, à la fin de sa vie, il était malade, donc ça a un peu déraillé peut-être. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu que c'était un homme d'une humilité, d'une douceur, d'une présence qui m'impressionnait. Je dis, cet homme, il avait sa petite valise, son imperméable, petit imperméable sur le dos, petite valise à la main, il y a une petite voix, mais ce qu'il disait, ça touchait, ça touchait. Je dis, Seigneur, c'est un homme comme ça que je voudrais être, mais je ne peux pas être comme lui. Ce n'est pas mon tempérament. Lui, il parlait peut-être doucement, calmement, paisiblement, une toute petite voix. Mais je voyais sa foi et son engagement et son amour pour le Seigneur. Et désirer faire ce que lui voulait pour lui. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je sais qu'après sa vie, il y a des gens qui ont pu le critiquer, quoi que ce soit. On n'est pas tous parfaits. Mais le moment où je l'ai vu, c'était un homme vraiment dans une consécration totale. On a besoin, frères et sœurs, d'exemples, de modèles. Mais ne pas être exactement comme ce modèle. Pas une copie conforme, pas un sosie, pas un clone. Aujourd'hui, on parle de clone, oui. Bientôt, on n'aura plus. Quand on pense que pour l'humanité, si cela continue, d'un certain, on n'aura plus besoin d'enfants, on aura des clones. Des copies conformes à nous, hein, transmettre de génération en génération. Mais malheureusement, nous, on voit les enfants, ils ne sont pas comme nous. Hein. Ils ne sont pas comme nous. Mais nous avons besoin d'outils, frères et sœurs. Oui. Véritables outils pour arriver à ce niveau-là, chacun d'entre nous. La parole de Dieu, bien sûr, la lire, la méditer. On lit, Marie-Thérèse, on lit, en ce moment, on devrait lire l'épître de Jacques. Il y a des versets dans cette épître de Jacques qui m'ont touché. Mes frères, que votre foi en votre glorieux Seigneur, chapitre 2 de Jacques, Jésus-Christ, soit exempt de toute acception de personne, d'être avec chacun comme si cette personne avait plus d'importance que nous. Même si elle nous irrite. Ça vous est jamais arrivé d'être agacé par une personne? Oh, moi aussi. Mais une chose que Dieu m'a pu me donner après ma conversion, moi qui étais un impulsif et je suis encore un peu, hein. Bon, impulsif, Dieu m'a appris la patience. La patience, et encore la patience, et toujours la patience. Dans toutes les circonstances que j'ai pu vivre, parfois j'étais, il y a surtout une chose qui m'agace terriblement, c'est le problème administratif. Les papiers, des fois, à remplir, des choses qu'on redemande, etc., ça m'agace. Mais je ne manifeste pas quand même ouvertement, parce que des fois, c'est une source d'ennui encore plus grande. Alors, si les gendarmes m'arrêtent pour un excès de vitesse, je ne vais pas essayer de me justifier, hein. Mais en général, c'est toujours les radars qui m'arrêtent, alors. Bon. Comme le jour, on était au mariage d'un d'un pasteur au Mont. Puis en rentrant, j'ai roulé un peu trop vite sur l'autoroute. Boum ! J'étais arrivé à 142 au lieu de 130. Rendez-vous compte ? Bon, j'ai eu un point de suspension. Pas de suspension, mais oui. Si on peut parler ça de suspension. Retiré au permis. Et puis quelques 45 euros d'amende. Mais j'ai pas râlé, hein. Quand j'ai vu, je ne me suis même pas rendu compte. Marie-Thérèse était à côté de moi, on discutait sur l'autoroute. La route était bien libre. Et puis je ne savais pas où était son radar, peut-être aussi. On est tous assis, hein. Non ? L'obéissance à la parole. Pas faire exception de personne, comme je disais tout à l'heure. Être vraiment avec chacun et chacune comme Dieu veut, pour l'honorer, pour le glorifier, pour lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Pas une parole d'homme, parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi. Pas simplement comme être un service. Hein. Oh, donne-moi d'être sage. Bon. Mais non. Seigneur, fais que je puisse devenir sage. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle nous avertit, elle nous reprend. Soyons attentifs à cela. Il y a aussi encore un outil qu'on peut utiliser, nous, en tant que chrétiens, pour garder vraiment notre salut, pour aller plus loin. C'est la prière. La prière. La prière par l'esprit, oui, la prière aussi dans l'esprit. Pour que Dieu, à travers ce que nous lui disons, nous réponde. Et vous savez quand même que la prière, il y a trois possibilités de réponse de Dieu. Tout de suite, oui. Parfois, non. Tout de suite. Parfois, plus tard. Plus tard, plus tard. Et ça peut être un oui ou ça peut être un non. Mais dans tous les cas, nous avons à obéir, à accepter, à reconnaître que ce que Dieu dit est bon pour nous. Quand Paul a voulu aller en Asie, Saint-Esprit lui a dit non, en Macédoine. Il a accepté. Pourtant, il pensait qu'il aurait fait de très bonnes choses en Asie. Mais il fallait qu'il aille voir cet homme, ce Macédonien qui lui est apparu, viens à notre secours. Et il est allé. Il est allé. Quand Philippe, Dieu lui a dit d'aller par le chemin du désert, il a obéi. Et il a rencontré l'Eunuque éthiopien. Et cet homme a été baptisé dans cette flaque d'eau qu'ils ont rencontrée. Il a reconnu à travers l'Ésaïe 53. Et puis ensuite, Saint-Esprit l'a transporté ailleurs, à 80 km de là où il était. Mais c'est pas possible. Ça devient de la science-fiction, là. Hein. Transporté avec un portail qui va d'un lieu à un autre directement. Il a obéi, il n'a pas pu faire autrement. Et il s'est retrouvé et il est allé de village en village. Annoncé toujours. Parce que Dieu lui a parlé. Il y a aussi une troisième chose, un outil que nous avons, c'est l'épreuve. L'épreuve dans laquelle nous pouvons traverser. Comment nous l'acceptons? Comment nous la recevons? Quand Paul a demandé à Dieu de lui enlever les chardes qui étaient dans sa chair, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah. Si tu crois être fort, attention. Mais si tu penses que tu es trop faible, attention aussi. Dans l'Épître aux Romains, on parle des forts et des faibles. Hein, parce que les faibles, c'est des fois, sont plus dangereux que les forts. Parce que dans la faiblesse, parfois, on fait des coups fourrés. Parce qu'on ne peut pas le dire en face, on ne peut pas l'exprimer, mais on va faire par derrière. Avec toute une sorte de forme d'hypocrisie et de malhonnêteté. Puis il y a le fort, lui, bah, il écrase carrément, quoi. Lui, c'est ouvertement. Mais le faible est aussi dangereux que le fort. Et on le voit aujourd'hui. Pour nous, chrétiens, sachons que ma grâce te suffit. Et que tu ne peux pas aller au-delà de ce que je te dis, dit le Seigneur. Voilà, on arrive doucement à la fin. Frères et sœurs, pensez à votre salut. Pensez à votre vie chrétienne, à ce que Dieu veut vous donner, à ce que vous avez déjà reçu et que vous gaspillez. Dimanche dernier, pendant le culte, j'avais une pensée, je ne l'ai pas donnée. Peut-être que j'ai tort. Mais peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre cela. C'était pensée, il disait que tu es venu en ce lieu, ce matin, tu es venu en ce lieu ce matin pour voir si ce qui se passe ici est dans la vérité. Si ce qui se passe dans l'Église de la Bonne Nouvelle est vraiment dans la conformité à la parole. Mais cette recherche, de ta part, c'est une recherche qui est remplie de folie. Ce qui est important pour toi, c'est que tu acceptes la vérité, que tu reçoives dans ton cœur la pleine vérité de l'Évangile. Christ est mort pour toi. Ce n'est pas l'Église. C'est Christ qui est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu croies de tout ton cœur que tu as la vie éternelle. Que ce n'est pas le langage ici, ce n'est pas les prédications qui sont données qui sont importantes, c'est ce que Christ a fait pour toi. Et que tu puisses le reconnaître ce matin. Je ne l'ai pas donné dimanche dernier, mais je crois que ce matin, c'est nécessaire. Il y a besoin de réaliser pleinement la puissance de Dieu. Il t'aime de tout son cœur. Et il veut te donner une vie nouvelle, d'être une créature nouvelle, où la puissance, ma puissance se manifeste en toi, dans ta faiblesse. Rejette tes pensées qui sont des pensées de contestation. Mais accepte ta situation et tu verras à travers ce que tu vivras maintenant combien Dieu est grand et combien Dieu agit et œuvre dans ta vie. Amen. Voilà cette pensée. Je crois que ça allait dans ce que j'allais donner ce matin. Afin de venir, de gagner, de progresser dans la vie chrétienne en espérant au-delà de ce que Dieu permet, vivre une vie pleine de richesses. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Il y a des richesses que Dieu nous donne qui sont au-delà de ce que nous voyons de nos yeux. On peut avoir le portefeuille bien plein et être malheureux comme le pire des miséreux. Mais si tu as ton cœur à Christ, si le cœur est donné à Christ, alors les choses changent. Et là, la vie nouvelle que vous vivez sera magnifiquement lisible et vécue. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin, pour ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Parce que là aussi, cela me concerne moi-même. J'ai besoin aussi encore pleinement de toi. J'ai besoin de ce que tu m'éclaires et me conduises au-delà de ce que je sais et je connais aujourd'hui. Et je remets mes frères et sœurs pour que la connaissance de toi soit manifeste en eux. Et qu'à travers ce culte de ce matin, à travers ce moment qu'on a partagé, cette parole qu'on a partagée, Seigneur, ton nom soit inscrit comme dans lettre de feu dans leur vie. Que leur cœur soit bouillant pour toi, Seigneur, chacun d'entre nous, notre cœur, et que nous soyons heureux et joyeux de te servir. Parce que ta parole, ce que tu es toi, Jésus, est une source de joie pour nous. Et je répète, oui, comme disait Paul, soyez joyeux, réjouissez-vous toujours en Jésus-Christ. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.